Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 6 mai 2024 et c'est une chronique exceptionnelle, je crois qu'on peut utiliser le mot, qu'on vous propose aujourd'hui, puisque nous allons recevoir Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Jonathan est en liaison avec nous à travers une visioconférence depuis Paris et ici dans les studios de Radio Libre en Périgord. Dominique Attingré, délégué départemental de l'ADMD, est également parmi nous. Alors, le sujet est important, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, tout de suite, je vais poser une première question à Jonathan, lui demandant de se présenter, de présenter très rapidement l'ADMD et ce qui relie l'ADMD à la question de la laïcité.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jonathan Denis, président bénévole de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association qui existe depuis 1980 et qui se bat pour que nous ayons une loi républicaine et une loi laïque dans l'accompagnement en fin de vie, c'est-à-dire une loi équilibrée qui permette comme réponse l'accès universel à des soins d'accompagnement et à des soins palliatifs et comme recours la légalisation de l'aide active à mourir, c'est-à-dire la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté pour des personnes qui seraient atteintes d'une affection, quelle qu'elle soit, grave et incurable, et qui auraient des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, qu'elles jugent absolument intolérables. Et l'ADMD s'inscrit depuis sa création dans ce chemin de la laïcité, parce que la loi que nous revendiquons, c'est une loi républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, mais surtout de laïcité, puisque c'est une loi qui respecterait absolument toutes les consciences. C'est un droit qui serait créé, mais dont chacun ne serait pas obligé d'user, évidemment. Mais aujourd'hui, nous le voyons bien aussi avec des positions de certains de nos opposants, le caractère laïque de cette loi veut être remis en cause et nous y tenons particulièrement. Et c'est pour ça que nous nous sommes associés notamment avec beaucoup de structures amies défendant également cet aspect de la laïcité à travers un pacte progressiste sur la fin de vie depuis plusieurs mois.
Merci Jonathan. Alors, nous avons appris il y a quelques semaines le dépôt par le gouvernement d'un projet de loi. Est-ce que ce projet de loi répond aux attentes de l'ADMD ? Mais avant de venir au détail de ce contenu et à la manière dont l'ADMD va intervenir dans le cadre de ce projet, est-ce que tu peux faire un peu le point sur ce qui va se passer maintenant, le processus parlementaire et les différentes commissions, j'imagine, qui se mettent en place ? Comment tout cela va-t-il se dérouler ?
Alors, pour refaire un historique rapide, tout démarre par une promesse d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022 de réunir une convention citoyenne, c'est-à-dire de réunir les Français tirés au sort dans le cadre donc d'une convention chargée de réfléchir à une possible évolution de la loi sur l'accompagnement en fin de vie. Donc ces Français 184 ont été réunis au sein du Conseil économique, social et environnemental pour répondre à une question qui leur avait été posée, très simple. Est-ce que le cadre actuel permet de répondre à toutes les demandes qui se présentent d'accompagnement ? Et à plus de 76%, ces Français ont dit qu'il fallait également légaliser l'aide active à mourir en face d'un accès universel aux soins palliatifs. Et cela allait dans le sens d'une prise de position du Comité consultatif national d'éthique qui reconnaissait pour la première fois de son histoire qu'il y avait une voie éthique, une alliance de l'autonomie et de la solidarité pouvant ouvrir une légalisation de l'aide active à mourir. Et ensuite, ça a donné lieu à une autre promesse d'Emmanuel Macron qui est celle d'un projet de loi travaillé de façon transpartisane qui devait être présenté il y a un an. Il a été reporté de multiples fois, notamment puisqu'on parlait de la laïcité en rapport avec la venue du pape en France en 2023. Et finalement, ce projet de loi a été présenté le 10 avril 2024 en Conseil des ministres. Et depuis, une commission spéciale s'est réunie à l'Assemblée nationale pour auditionner de nombreuses personnes et de nombreux intervenants sur ce sujet, et puis commencer à travailler à certains amendements, puisque le texte sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Il sera débattu pour plusieurs jours, puisqu'on parle aujourd'hui d'un vote solennel de ce projet de loi en première lecture pour le 11 juin. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de procédure accélérée, donc ensuite le texte partira au Sénat, puis reviendra à l'Assemblée avant de repartir au Sénat. Donc on est parti pour 12 à 18 mois, voire même peut-être 24 mois, de discussion avant un vote total du projet de loi.
D'accord. Donc, je suppose que tu évoquais là, dans ton intervention la loi existant actuellement, c'est-à-dire la loi Leonetti-Claeys, et puis donc sur la procédure qui va se dérouler maintenant. Donc, tu as évoqué cette commission spéciale qui s'est mise en place. Nous mettrons d'ailleurs dans le compte-rendu, dans l'article que nous ferons suite à cette interview, le lien vers la déclaration que tu as faite à cette commission, hein, que j'ai regardée et qui, je pense, en 7 minutes, est tout à fait éclairante sur le sujet. Bon, ça peut être un peu une redite pour toi, mais je dirais, ce que tu as dit dans cette déclaration, bon, condense en quelques minutes toute une série de questions qui se posent par rapport à l'arrivée de ce projet de loi. Alors, est-ce qu'on peut rentrer maintenant dans le détail des propositions du gouvernement ? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est un petit peu notre rôle de farfouiller un petit peu là-dedans. Tu as indiqué, là, il y a un an de retard déjà. Là, tu annonces peut-être 24 mois. Il n'y a pas des gens qui jouent un petit peu la montre là-dedans?
Alors, le président de la République avait dit en décembre qu'il assumait de prendre son temps sur ce sujet. Sauf que tout le temps qu'a pris Emmanuel Macron, mais tout le temps qu'ont pris avant lui des personnes qui étaient alors défavorables ou des personnes qui étaient favorables, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait une promesse d'un président de la République, c'était François Hollande, de légaliser l'aide active à mourir. Et ça a finalement donné lieu à la loi Claeys-Leonetti de 2016. Mais tout ce temps assumé par certains de discussion, de réflexion, c'est du temps que des Françaises et des Français n'avaient plus. Et donc, ces Françaises et Français ont dû parfois partir à l'étranger, en Suisse, par exemple, ou en Belgique, pour être accompagnés comme ils le souhaitaient. Maintenant, il faut reconnaître que ce projet de loi est sur la table et qu'il y a quand même une avancée historique. C'est la première fois qu'on a un projet de loi qui va parler à la fois des soins d'accompagnement et de l'aide active à mourir. Et puis, c'est la première fois qu'un projet de loi propose de légaliser une forme d'aide à mourir. Alors, dans ce projet de loi, on n'assume pas les mots suicide assisté et euthanasie, mais si on veut vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, c'est une proposition de suicide assisté avec une exception d'euthanasie pour les personnes qui ne seraient plus capables physiquement de faire le geste létal. Maintenant, ce projet de loi, très clairement, dit qu'une aide active à mourir peut être demandée par une personne majeure, de nationalité française ou résidant de manière régulière en France, qui est atteinte d'une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou à moyen terme, avec des souffrances physiques ou psychiques réfractaires ou qu'elle juge insupportables, et que cette demande doit être faite de manière libre et éclairée. Voilà les conditions définies par le projet de loi, qui étaient d'ailleurs les conditions définies par Emmanuel Macron lors de ses différentes interventions. Mais même si on reconnaît ce caractère historique, il y a de nombreux points à revoir dans les conditions d'accès pour que nous ayons cette loi dont je parlais, républicaine, laïque et ambitieuse d'accompagnement, et qu'on puisse tenir cette promesse de tenir la main jusqu'au bout de la personne qui le demande. Cette promesse de non-abandon pour qu'on soit au cœur de la liberté, au cœur de l'égalité, au cœur de la fraternité, au cœur de la laïcité. Et nous en sommes encore loin.
D'accord. Donc maintenant, ce processus, si on revient sur le processus qui va se dérouler, comment sur le terrain, et notamment en région, dans tout le pays, comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il va y avoir, comme c'était le cas sur d'autres sujets sociétaux, je me rappelle notamment pour le mariage pour tous, pour d'autres sujets, il y a eu des conférences qui ont été organisées un peu partout. Est-ce qu'on va avoir un petit peu ce même processus, ou est-ce que ça va rester au niveau de commissions au plan national avec un public très restreint?
Il y a un souhait évident de nombreux parlementaires d'aller présenter ce projet de loi dans leur circonscription. Alors, il faut bien attendre, évidemment, que les amendements soient discutés. Ils le seront très prochainement au sein de cette commission spéciale. Et donc, les parlementaires vont organiser dans toutes leurs circonscriptions des débats avec nos concitoyens pour comprendre ce qu'ils attendent de ce projet de loi et comprendre ce qui peut peut-être ne pas encore convenir dans ce projet de loi. Et évidemment, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité continuera le travail qui est fait depuis plus d'une dizaine d'années, qui est d'aller à la rencontre également des Français, puisqu'on le fait pratiquement chaque semaine dans l'ensemble de nos délégations, pour débattre de ce sujet. Et dans les points qui vont être débattus, il y a la question de l'engagement du pronostic vital à court ou à moyen terme, qui exclut pour l'instant du projet de loi de nombreux malades. Je pense à toutes les personnes qui peuvent être atteintes, par exemple, de maladies à évolution lente, de maladies neurodégénératives, mais qui exclut également l'expression des directives anticipées. Ce sont les grandes absentes de ce projet de loi. Et puis qui, en n'assumant pas les mots sur l'aide à mourir, condamne des personnes qui, serait par exemple capable physiquement de faire le geste sur elle-même, c'est-à-dire un suicide assisté, mais qui, pour des convictions qui leur sont propres, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou même par peur, serait exclue du projet de loi si elle ne souhaitait pas faire le geste. Donc ça, c'est des points évidemment qui vont être discutés par les parlementaires dans la commission spéciale, mais également lors des réunions publiques qu'ils organiseront. Et puis nous organiserons nous aussi des réunions avec le pacte progressiste sur la fin de vie pour porter ces conditions que l'on souhaite voir évoluer.
Très bien. Alors je crois d'ailleurs qu'il y a, Dominique, on parlera je pense en fin d'émission, une initiative d'un parlementaire de Dordogne qui s'est saisi effectivement de cette volonté d'organiser des rencontres avec les citoyens. Nous y reviendrons. Alors quelle va être la stratégie maintenant donc de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité? Tu as relevé un certain nombre de décalages entre le texte présenté par le gouvernement et l'ensemble des revendications de l'ADMD. J'ai bien noté, c'est moi finalement ce qui m'a le plus surpris là en regardant cette proposition, la disparition de la question des directives anticipées, qui était d'une certaine façon, avec toutes les limites qu'avait la loi Claeys-Leonetti, mais qui était quand même un petit peu au centre des dispositifs législatifs précédents et qui semble là sans plus aucune utilité.
C'est le grand scandale de ce projet de loi. Les directives anticipées existent depuis 19 ans. Elles existent depuis 2005. Leur poids a été renforcé dans la loi Claeys-Leonetti de 2016. Et finalement, il n'est aucunement fait mention dans ce projet de loi des directives anticipées. Donc on considère que dans la loi de 2016, si vous demandez à être accompagné dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, dans le cadre de vos directives anticipées, c'est-à-dire quand vous l'avez demandé de façon libre et éclairée, quand vous aviez absolument toute votre conscience, eh bien ça peut être valable, c'est-à-dire que par une procédure collégiale et la désignation de votre personne de confiance, on peut porter votre parole, votre droit, votre choix, mais il serait tout simplement rayé de la carte si vous demandiez une aide active à mourir dans le cadre de ces directives anticipées. Ce n'est pas acceptable et ça remettrait véritablement en cause tout le travail qui a été mené sur les directives anticipées et ça n'incitera absolument pas nos concitoyens à devoir réfléchir à ce que peut être la fin de vie et à pouvoir inscrire dans ce document ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas, mais que ce document puisse les protéger dans l'expression de leur libre choix. Donc là, il y a un gros travail, évidemment, à faire dessus. Et l'ADMD, notamment avec les jeunes, par exemple, de l'association, qui sont nos adhérents depuis 35 ans, porteront une nouvelle fois dans la France entière cet été, au mois de juillet, cette revendication pour que les Français s'intéressent aux directives anticipées, les Français réfléchissent à ce que sont ces directives anticipées, puissent les rédiger, mais surtout qu'elles puissent faire foi dans le cadre de ce projet de loi.
Donc finalement, l'un des aspects qui est un petit peu au centre de cette question, hein, c'était souvent l'objet de discussions dans les conférences de l'ADMD, c'est la question de l'équilibre entre les indications des soignants, du corps médical, et les souhaits de l'intéressé et de l'entourage de l'intéressé. Et cette question n'est... Il n'y a pas d'avancée, finalement, sur cet aspect-là. Peut-être même une affirmation de la puissance probablement excessive aujourd'hui du corps médical dans cette affaire.
Il faut reconnaître que quand on parle de liberté, on parle aussi de liberté de conscience des soignants. Donc, personne n'a imaginé qu'un quelconque soignant serait obligé d'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir, parce que ça peut être contraire à ses convictions éthiques, une nouvelle fois, philosophiques, religieuses, peu importe. Mais toutes les propositions de loi, mais surtout toutes les lois, puisqu'il y en a eu deux, voire même trois lois Leonetti, on a toujours oublié de mettre au cœur du projet la personne qui est malade, la personne qui souffre, la personne qui dit « moi, la vie n'est devenue que de la survie, je souhaite pouvoir choisir quand éteindre la lumière parce que mes souffrances sont insupportables ». Et à chaque fois, il y a eu finalement une loi faite par des médecins pour des médecins. Moi, j'ai l'espoir que dans ce projet de loi, la personne qui est dans le lit soit la personne qui soit au centre de sa décision, que ce ne soit pas aux personnes autour du lit de décider à sa place. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'absence de pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, puisqu'aujourd'hui, le court terme, on sait que c'est quelques heures, quelques jours, mais le moyen terme, personne n'est capable de le dire. C'est-à-dire que des personnes qui pourraient avoir ces souffrances, cette incurabilité, on devrait leur dire « ah ben non, votre pronostic vital, finalement c'est 15 mois, madame, monsieur, revenez dans 3 mois pour qu'on puisse vous accompagner ». Non, ça c'est absolument pas tolérable. Et donc cet aspect des directives anticipées, si on ne les met pas dans le texte, la décision ne reviendra pas à la personne qui est concernée.
D'accord. Donc, dans les différents débats qui ont déjà eu lieu, on se rend compte qu'il y a effectivement un positionnement qui est souvent, qui se manifeste souvent. Alors, avec un langage, j'ai écouté notamment l'émission qui a eu lieu récemment, je crois que c'est sur LCP, hein, avec une représentante de l'association des soins palliatifs. Est-ce que tu peux dire quelques mots justement sur la manière dont s'engage ce débat? Parce que je l'écoutais hier soir et je le regardais. J'ai trouvé qu'il y avait un décalage, qu'on parlait finalement pas des mêmes personnes.
Il se trouve que depuis de nombreuses années, on veut faire croire que ce projet de loi, et à travers ce projet de loi, que notre association, l'ADMD, revendiquerait une aide active à mourir pour toutes et pour tous, finalement. Et maintenant que ce projet de loi est sur la table, ces opposants qui ont le droit d'être opposés une nouvelle fois, personne ne leur demande de changer d'avis. Si eux ont des certitudes et pensent avoir une vérité, nous, nous sommes dans l'incertitude. Et c'est bien parce que nous sommes dans l'incertitude que nous souhaitons qu'il y ait ce champ des possibles qui soit ouvert dans l'accompagnement en fin de vie. Mais ces opposants, aujourd'hui, nous parlent d'un projet de loi qui n'est pas celui qui est discuté. Il nous explique que dans ce projet de loi, ce serait la porte ouverte pour les mineurs, ce serait la porte ouverte pour toutes les personnes handicapées, ce serait la porte ouverte pour toutes les maladies psychiatriques, ce serait la porte ouverte pour les personnes qui seraient finalement en pleine santé, mais qui, parce qu'elles auraient atteint un certain âge, choisiraient d'être accompagnées dans le cadre d'une aide active à mourir. Ce n'est pas le projet de loi qui est posé sur la table. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter des choses et regarder les choses en face telles qu'elles existent, mais aujourd'hui, et je l'ai reconnu effectivement dans cette émission à laquelle j'étais opposé à Sarah Piazza, qui est psychologue, nous ne parlions pas de la même chose. Et je l'ai compris également devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale, certains députés ne parlent pas du même projet de loi qui est aujourd'hui proposé et qui est à discuter et à amender. Je ne crois pas que c'est en tombant dans des mensonges, dans l'excès et en tombant dans la mise au banc des pays européens qui ont avancé avant nous que nous arriverons à avoir un débat serein et apaisé. Nous, à l'ADMD, on revendique d'être un interlocuteur, on revendique d'être un partenaire, on revendique d'être une association responsable qui souhaite faire avancer les choses par rapport à ce qui existe aujourd'hui et pas par rapport à autre chose.
Alors, tu viens d'évoquer ce qui existe dans d'autres pays. C'est peut-être l'occasion de faire un point, justement, là, sur les dispositions existant, je pense notamment à la Belgique, puisqu'elle est souvent citée par l'ADMD. Là, nous sommes dans une chronique qui a pour but d'éclairer un petit peu les auditrices, les auditeurs, d'instaurer, gérer une forme d'éducation populaire sur ce sujet qui est extrêmement intime et complexe. Donc, est-ce que tu peux donner un complément d'éclairage sur, pour le projet de loi donc, actuellement déposé en France et avec les dispositions existant déjà ailleurs?
Alors, il faut savoir que dans le cadre du projet de loi, au départ, nous partions sur un modèle, si on peut appeler ça un modèle, d'accompagnement qui était celui de l'Oregon, aux États-Unis. Dans l'Oregon, si vous êtes atteint d'une maladie incurable et que votre pronostic vital est engagé dans les 6 mois et que vous exprimez des souffrances qui sont insupportables, vous pouvez vous voir délivrer ce qu'ils appellent une kill pill, c'est-à-dire une pilule létale. Vous rentrez chez vous, vous la prenez ou vous ne la prenez pas, sauf que vous la prenez généralement seul. Et on se rend compte que ce système fait que vous avez des décès qui mettent parfois jusqu'à 4 jours à arriver. Donc on n'est pas du tout dans l'alliance de l'autonomie, de la solidarité et de la fraternité que nous revendiquons. Et puis ensuite, vous avez d'autres modèles qui existent. Le modèle, par exemple, en Suisse, où là, vous êtes accompagné dans le cadre d'un suicide assisté, c'est-à-dire ce sont des associations qui vous accompagnent, puisque les Suisses n'ont pas de loi, mais ont fait une interprétation de leur loi sur le suicide, qui est autorisée, s'il n'y a pas de suicide assisté, de mobile égoïste. Donc, dans le cadre de la Suisse, vous allez en Suisse, c'est une association qui vous accompagne, mais c'est toujours la personne qui fait le geste. En Belgique, il y a la dépénalisation de l'euthanasie depuis 2002, et donc, ça permet à des personnes qui sont dans des situations médicales sans issue de pouvoir être accompagnées dans le cadre d'une aide active à mourir. Donc, c'est généralement un médecin qui fait le geste. Et vous avez de nombreux Français qui partent en Belgique, qui partent en Suisse, parce que cette possibilité ne leur est pas offerte dans notre pays. Et il faut bien réaliser une chose, nous sommes entourés par les frontières de pays qui ont avancé sur cette question avant nous. Que ce soit par la loi, je pense aux Pays-Bas, à la Belgique, au Luxembourg, je pense à l'Autriche, je pense au Portugal et à l'Espagne dernièrement, ou que ce soit par des décisions de justice, et là je cite par exemple l'Italie ou l'Allemagne. Donc il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrête de vouloir donner des leçons à nos voisins étrangers en voulant faire croire qu'ils ne savent pas accompagner, qu'ils font n'importe quoi, alors qu'ils le font de façon totalement humaine, fraternelle et d'une excellente façon, mais qu'on regarde en face ces choses dans notre pays et qu'on sache apporter cette fraternité aussi à nos concitoyens.
Très bien. Dans les débats qu'on a pu suivre déjà, notamment à la télévision, un thème qui revient souvent de la part des personnes qui sont opposées à une loi sur la fin de vie, c'est la question des possibles dérives. C'est la question, y compris certains vont même jusqu'à dire, c'est un moyen de renflouer la sécurité sociale. Bon, j'ai fait courte, mais c'est un petit peu ce qu'il y a derrière certains propos. Donc peut-être que sur cette dernière partie de chronique, on peut évoquer les arguments à opposer, justement. Bon, sachant que tous les résultats montrent, tous les sondages montrent, et ça ne bouge pas, qu'il y a 80% de Français, de citoyens qui sont pour une loi de fin de vie correspondant donc aux propositions de la DMD et 20% qui y sont opposés.
Oui, alors il faut arrêter sur les dérives. Il faut bien comprendre que quand les opposants parlent de dérives, pour eux, l'existence même d'une législation permettant les actifs à mourir est une dérive. Donc à partir de là, ils peuvent nous trouver toutes les dérives qu'ils veulent. Maintenant, vous dites que 80% des Français sont favorables à une évolution de la loi, ce qui est vrai, mais il faut aussi regarder à l'étranger. Quand vous interrogez les Belges, par exemple, ils sont 80% des Belges à dire « on est fiers de notre loi, on veut conserver notre loi comme elle existe ». Et ce sont des Français qui partent en Belgique pour être accompagnés dans le cadre d'une euthanasie. Par contre, il n'y a pas de Belges qui viennent en France pour être accompagnés dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès par la loi de 2016. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est bon d'arrêter de donner des leçons à l'étranger. Mais les dérives n'existent pas à l'étranger. Pour certains pays, depuis plus de 20 ans, ils se sont dotés d'une législation permettant l'accès universel aux soins palliatifs, renforçant les droits des patients et légalisant l'aide active à mourir. On voit très bien que les choses se passent bien là-bas, que les médecins belges ne sont pas moins médecins que les médecins français qui refuseraient de pratiquer une aide active à mourir, qu'ils n'ont pas moins d'éthique parce qu'ils pratiquent une aide active à mourir que des opposants qui existent en France. Donc, prenons exemple sur ce qui fonctionne à l'étranger, et en cela, il faut reconnaître que le modèle belge est un modèle exemplaire.
Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Tu as peut-être quelques commentaires à ajouter. Sinon, on donnera la parole à Dominique pour présenter justement la réunion dont l'initiative est prise par un député de Dordogne pour donc la dernière partie de cette chronique. Et ensuite, on passera ton choix musical et on se retrouvera après le choix musical pour la conclusion de l'émission. Alors, as-tu quelques éléments complémentaires que tu souhaitais donner dans le cadre de cette émission ?
Non, je laisse la parole à Dominique.
Alors Dominique, nous sommes très heureux que tu sois là.
Oui, merci.
Tu es souvent venu ici, donc.
Oui. Bonjour à tous. Voilà, oui, effectivement, donc dans le cadre de la commission spéciale, actuellement, le député Sébastien Pétavy organise une rencontre, ce sera à la mairie de Boulazac, le 24 mai à 17h, et où la DMD est invitée, donc, et toutes les personnes qui pourront se déplacer pour témoigner de la fin de vie et de leurs souhaits en fonction, donc, de la loi, de la nouvelle loi. Donc voilà, donc c'est très important, je vous invite à venir y assister. Et d'autre part, il y aura également le samedi 8 juin, l'AG de la DMD départementale le matin, et l'après-midi, à 14h45, au Théâtre de Périgueux, dans la salle Montaigne, une intervention de Claudine Benaïch, justement, concernant les directives anticipées, puisque c'est totalement fondamental, et que dans la nouvelle loi, elles n'y figurent pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est très important d'être là pour que chacun, là aussi, puisse venir exprimer publiquement ce qu'il souhaite pour leur fin de vie. Et puis, j'annonce également que l'ADMD Tours passera à Périgueux cet été, le 15 juillet. Alors, les modalités, je ne les connais pas encore toutes. On est en train de voir quel sera l'emplacement. Ça sera dans le centre de Périgueux, de toute façon. Et donc, bien sûr, je tiendrai à courant nos adhérents et puis toutes les personnes qui se sentent concernées, de façon à ce que vous veniez, là également, soutenir eh bien, la délégation et puis la loi que nous souhaitons tous.
D'accord. Bon, mais très bien. Merci Dominique. Nous ne manquerons pas de rappeler dans nos prochaines chroniques ces rendez-vous importants. Hein, nous les rappellerons donc très très largement. Alors, comme c'est la tradition, nous allons maintenant écouter le choix musical de Jonathan, puisque c'est la tradition de proposer à l'invité, lorsque nous avons une interview, de faire ce choix. Et Jonathan, est-ce que tu peux rappeler le choix musical que tu as fait et s'il y a une raison particulière ?
Alors, j'ai choisi Ma révérence de Véronique Sanson. Il y a deux raisons. Au-delà d'être absolument fan de Véronique Sanson et de trouver cette chanson magnifique, c'était la chanteuse préférée de mon papa. Et c'était une des chansons préférées de mon papa. Et j'ai accompagné mon papa dans le cadre d'une euthanasie clandestine dans notre pays il y a plusieurs années. Et c'est la raison de mon engagement pour qu'il n'y ait pas d'autres parents, d'autres enfants qui aient à être dans la clandestinité chez nous et que ça puisse être véritablement une loi de liberté qui protège à la fois les soignants et les soignés. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de cette chanson.
Alors on l'écoute. C'était donc un choix effectivement tout à fait pertinent. Et il nous reste à remercier, mille merci à Jonathan d'avoir accepté cette interview sur Radio Libre en Périgord, parce que chacun peut imaginer la charge de travail que peut représenter la situation actuelle avec ce projet de loi qui vient d'être déposé. Donc je suppose que tu es très très sollicité. Donc nous te remercions très vivement d'avoir participé à notre chronique hebdomadaire. Voilà, peut-être un dernier mot de conclusion et je saluerai les autrices auditeurs.
C'est moi d'abord qui vous remercie pour m'avoir donné cette possibilité d'échanger avec vous et d'expliquer ce qu'est ce projet de loi et ce qu'il est nécessaire d'améliorer dans le cadre de ce projet de loi. Mais en mot de conclusion, j'espère que nous aurons le plus rapidement possible cette loi qui, une nouvelle fois, respectera absolument toutes les consciences. Cette loi que demande depuis plus de 40 ans une immense majorité de Françaises et de Français, et qu'il faut bien se garder de toute vérité, de toute certitude. Dans le cadre de cet accompagnement en fin de vie, nous ne sommes pas une association qui dira à ceux qui sont contre « vous avez tort ». Non, il faut respecter également leur voix, leur choix, mais en leur demandant de respecter le nôtre, et que finalement, aujourd'hui, pourquoi nous nous battons, c'est pour notre ultime liberté.
Merci, merci Jonathan. Dominique, tu voulais dire un mot?
Je voulais remercier Jonathan d'avoir participé donc à cette rencontre. C'était très important. Et voilà, je crois que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses et qu'ils en seront satisfaits. Et j'invite tout le monde, évidemment, à suivre les travaux de la DMD.
D'accord. Donc, auditrices, auditeurs, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zellers, toujours sur Radio Libre en Périgord.
Un soft charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Qui la couvre, elle tient, ton rêve brille.